La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire du combat pour l'éducation et pour la paix.
La paix, due poursuivie depuis 3 mois par la session des Nations Unies réunies à Paris et dont M. Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, devait saluer la dernière séance en se félicitant que les délégués de 52 nations et voulu choisir Paris pour édicter la nouvelle déclaration des droits de l'homme.
We stand today at the threshold of a great event.
Nous sommes à l'aube d'un événement majeur autant pour les Nations Unies que pour l'humanité. La Déclaration universelle des droits de l'homme pourrait bien devenir la charte de tous les hommes.
Notre déclaration se présente comme la plus vigoureuse, la plus nécessaire des protestations de l'humanité contre les atrocités et les oppressions dont tant de millions d'êtres humains ont été victimes à travers les siècles et plus particulièrement pendant et entre les deux guerres.
Est approuvée à une majorité écrasante la Déclaration des droits de l'homme comme modèle de conduite pour tous.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'UNESCO lance un appel aux intellectuels du monde entier pour réfléchir à une nouvelle Déclaration universelle des droits de l'homme, votée en 1948. Un acte fondateur pour l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Créée sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale, dans un esprit universaliste et pacifiste, l'UNESCO s'ouvre dès 1960 aux femmes et aux hommes portés par leur combat pour la décolonisation et l'éducation. Mais l'histoire de l'organisation, c'est aussi celle de la guerre froide et des relations internationales, comme le montre notre invitée historienne Chloé Morel dans son livre publié aux éditions du Croquant, Les grands discours à l'UNESCO. À l'écoute des mots vibrants de René Cassin, co-rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, jusqu'au discours magistral de Nelson Mandela, quelques mois après sa libération, en passant par l'appel de la première ministre indienne Indira Gandhi pour l'intégration de l'éducation comme facteur de développement, nous vous proposons un récit incarné, un récit sensible du combat pour la préservation du patrimoine matériel et immatériel de l'humanité. Cinquième anniversaire de l'UNESCO, Yehudi Menuhin au violon, Rostropovitch au violoncelle et Wilhelm Kempf au piano. Bonjour, Chloé Morel.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire et votre thèse, soutenue en 2006, portait déjà sur l'histoire de l'UNESCO. J'aimerais savoir tout d'abord qu'est-ce que vous ont apporté toutes ces années de recherche à titre personnel et comment finalement vous en êtes arrivé à ce choix qui est quand même très très fort de donner la parole aux grands intellectuels, aux grands artistes, aux grands scientifiques et politiques qui se sont exprimés à la tribune de l'UNESCO.
Eh bien, au début, j'ai fait pendant 5 ans ma thèse où j'ai beaucoup travaillé sur des archives écrites, beaucoup de documents papier. J'ai défriché l'histoire de l'UNESCO, cette grande machine un peu bureaucratique pendant ces 30 premières années. Comme De Gaulle disait, le machin pour qualifier l'ONU.
Ça peut sembler un peu aride, a priori.
Oui, voilà. C'est institutionnel, c'est une histoire d'une institution. Mais ensuite, plusieurs années plus tard, j'ai eu envie de donner un visage humain, plus personnel à cette histoire. Et grâce aux archives de l'UNESCO, en ligne, où il y a beaucoup de documents numérisés, notamment des documents audiovisuels et audio, j'ai pu faire cette recherche et trouver des discours, à la fois la version audio et la version papier numérisée dans les archives en ligne de l'UNESCO. Et j'ai retrouvé des discours extraordinaires, vibrants, des années 40 jusqu'aux années actuelles.
Dans quel contexte, justement, l'UNESCO, cette institution, est-elle née et quel rôle ont joué ses pères et ses mères fondateurs et fondatrices? Puisqu'en ouverture de cette émission, nous avons déjà entendu les voix de Eleanor Roosevelt ou encore de René Cassin.
Eh bien, en 1945, vraiment après plusieurs années de guerre et de massacres et de génocides, il y avait vraiment une aspiration à la paix, à l'entente entre les peuples, entre les nations. Et même le premier directeur général de l'UNESCO, le scientifique britannique Julian Huxley, voulait, lui, créer une culture mondiale unique, comme il l'appelait, pour faire la paix, pour mettre tous les peuples d'accord et éviter les frictions et les ressentiments entre nations.
Et cette idée de culture monde qui peut sembler très banale presque au XXIe siècle, à l'époque, c'est une façon d'envisager le monde qui est complètement novatrice.
Hein. C'est très nouveau et ça a suscité l'inquiétude des États-Unis qui y voyaient peut-être une influence soviétique, un risque d'une influence rouge soviétique qui irait dicter aux Américains comment penser. Mais en fait, peu à peu, au fil des années, cette mondialisation culturelle, elle s'est faite d'elle-même et finalement, l'UNESCO a évolué et à partir des années suivantes, surtout des années 60-70, au contraire, elle a cherché à préserver les spécificités culturelles des peuples. Donc il y a eu un retournement au fil du temps.
Alors retour justement sur ces différentes étapes de l'UNESCO avec vous, Chloé Morel. Et tout d'abord peut-être le 10 avril 1955, le premier coup de pioche qui est donné pour construire la nouvelle maison de l'UNESCO, inaugurée le 3 novembre 1958 à Paris.
L'UNESCO n'a cessé de grandir, de s'affirmer et de renforcé jusqu'au jour qu'elle devait édifier elle-même sa propre maison à la mesure de ses besoins et du destin qu'elle entendait se donner.
Vingt ans écoulés ont montré à quel point il est heureux que les Nations Unies disposent, pour ce qui concerne l'éducation, la culture, la science, d'une organisation distincte de celle qui a pour objet les questions politiques.
Comme le rappelle le général de Gaulle pour les 20 ans de l'UNESCO, il est important que les questions de culture et d'éducation soient distinctes de la politique. Mais est-ce que ce n'est pas un énoncé d'une utopie, sinon carrément de la langue de bois, Chloé Morel, puisque de 1947 à 1991, les institutions mondiales s'inscrivent dans un temps qui est celui de la guerre froide et donc de la compétition entre l'Est et l'Ouest.
C'est vrai, l'UNESCO affirmait toujours qu'elle voulait être apolitique, mais c'était difficile. Il y a eu, dès les années 50, beaucoup de tensions entre États-Unis et URSS. L'URSS a adhéré en 54 seulement, après la mort de Staline. Il y a eu des accusations d'espionnage, il y a eu le maccartisme avec la dénonciation de fonctionnaires de l'UNESCO américains soupçonnés de communisme. Donc il y a eu beaucoup de blocages en fait à cause de ces tensions internationales de guerre froide.
Et ce temps de la guerre froide, c'est aussi celui du processus de la décolonisation avec l'entrée de 17 nouveaux pays à l'UNESCO en 1960. Le grand écrivain malien Amadou Ampateba, fondateur de l'Institut des sciences humaines à Bamako, devient alors le représentant du Mali à l'UNESCO.
Le président de la République du Mali, monsieur Modibo Keïta, a dit dans un discours prononcé à Bamako, si le colonialisme est un mal, ce fut un mal nécessaire. Le régime colonialiste est mort dans beaucoup de régions. Il est en agonie très avancée dans d'autres. Il n'est donc plus cette bête noire et féroce d'antan. Si vous, monsieur Leblanc, vous vous obstinez à trop nous rappeler ici les méfaits du colonialisme européen, c'est-à-dire les torts qui nous ont été causés par d'autres blancs, ne craignez-vous pas que nous ne tirions notre ligne de conduite des deux adages africains qui disent l'un, quand un taureau noir a tué ton oncle, la chasseuse te commande de te mettre en garde contre toute bête noire, même si elle était douce. Et l'autre, les belles fleurs de l'arbre de fiançailles donne très tôt des fruits amers de la vie conjugale. Je souhaiterais donc pour ma part, pour la part de mon pays, que le colonialisme soit enterré profondément et à jamais, mais qu'il le soit à la manière de mon pays, où la dignité et la correction font qu'on enterre une dépouille sans bruit et sans injure, fut-elle celle du pire des vampires. La France a décapité son roi. La Russie s'est secouée du joug de ses tsars. L'Amérique s'est affranchie de ses dominateurs. La reine d'Angleterre n'a plus droit de vie et de mort à volonté. Bravo, bravo pour vous, monsieur Leblanc. Vous avez donc un dénominateur commun pour vous entendre et vous faire mieux voir de nous, anciens colonisés et vos pupilles. Pour ma part, ce que je souhaite pour le Mali d'abord et pour tous les territoires anciennes possessions européennes, c'est de n'être plus pour personne ni une mitraillette qu'on tire, ni une cible sur laquelle on tire. Vous nous avez appris à lire et à écrire. Merci. Vos langues nous ont permis de constituer de grandes unités en dépit des diversités de nos idiomes. Encore merci. Nous vous en resterons reconnaissants. Maintenant, puisque vous nous avez appris à compter, il ne doit plus être possible pour vous de nous faire accepter que 2 et 2 font 7. Par ailleurs, vous nous avez aussi enseigné les lois de la douane. Nous les utiliserons, avec votre permission, soyez-en certains. Tous les paquets matériels et politiques que vous expédierez désormais chez nous seront déballés afin que la poudre d'arsenic ne puisse plus passer sous étiquette sucre en poudre. Je m'excuse beaucoup dans les cas où mes paroles dépasserait ma pensée et ferait croire que je suis pour un groupe contre un autre. Loin de moi tout séparatisme, mais aussi loin de moi toute imitation servile et tout acquiescement naïf. Je désire être, je refuse de paraître. Nous sommes vos pupilles, je l'ai dit plus haut et je le répète ici. Il n'y a pas à en rougir. Nous sommes faibles d'économie et de culture moderne. Ce serait malhonnête de le cacher. Nous avons besoin de vous. Et vous, vous voulez nous donner. C'est donc très simple. Mais le malheur est que vous vous battez autour de nous à nous faire douter votre bonne volonté. Donnez-nous ce que vous avez à donner et laissez-nous apprécier le cadeau.
La voix puissante du grand Amadou Ampateba, ici à la tribune de l'UNESCO, c'est un discours retentissant, prononcé en 1960. Moi, j'aimerais, avec vous, Chloé Morel, qu'on se remette dans le contexte historique et dans l'atmosphère de l'époque.
Eh bien, l'année 1960, à l'UNESCO, elle est surnommée l'année de l'Afrique, parce qu'il y a 17 nouveaux États qui adhèrent et ça change la configuration de l'UNESCO complètement. Désormais, le centre de gravité de l'UNESCO, c'est l'Afrique, c'est les pays non occidentaux. Et bientôt, il va y avoir la création du G77, le groupe des 77 pays du tiers-monde qui s'unissent et qui vont peser sur les politiques à l'UNESCO en réclamant, par exemple, des actions pour l'alphabétisation, des actions d'assistance technique, d'aide au développement.
C'est une forme de révolution parce que quelques mois plus tôt, Amadou Ampateba faisait partie des colonisés, donc de ceux qui n'avaient pas voix au chapitre.
Oui, il travaillait à Dakar, à l'IFAN, avec Théodore Monod. Et désormais, en 1960, il est un représentant du Mali indépendant et il fait ce retentissant discours dans lequel il parle de l'importance de respecter les pays d'Afrique pour les pays occidentaux. Il les remercie pour tout ce qu'ils ont apporté, mais il proteste et il demande à avoir plus de marge de manœuvre. Il est aussi un grand fervent partisan du patrimoine culturel africain, la protection des cultures, la culture peul. Il a passé 15 ans à recueillir les traditions orales et dans le cadre de l'UNESCO, il va superviser la mise en place d'un système de transcription des langues africaines qui a beaucoup fait pour conserver et préserver ces langues. Et ça va déterminer l'orientation future de l'UNESCO qui va de plus en plus se consacrer au patrimoine mondial, avec en 1972 la création de la fameuse liste du patrimoine mondial et patrimoine immatériel beaucoup plus tard dans les années 2000.
Donc Amadou Ampateba, véritable précurseur de cette notion de patrimoine culturel africain, patrimoine mondial. Et puis, c'est bien sûr Amadou Mpateba, on ne peut pas y résister, qui va livrer cette fameuse formule, non pas dans un discours à l'UNESCO, mais dans un texte.
Oui, alors au Conseil exécutif de l'UNESCO en 1962, puisqu'il est élu de 1962 jusqu'en 70, il siège au Conseil exécutif de l'UNESCO. Il va répondre à un représentant des États-Unis, William Benton, qui traite les Africains d'analphabètes et d'ignorants. Et il répond « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ».
Il n'a pas sa langue dans sa poche, Amadou Mpateba, et il ne rate personne lorsqu'il évoque, par exemple, les douanes africaines priées de ne pas laisser passer de nouveaux poisons. Comment l'avez-vous entendu, Chloé Morel ?
On peut l'interpréter de différentes façons. Le mot poison, ça peut faire référence à des assassinats politiques, effectivement, puisqu'il y a eu l'assassinat de Ruben Oum Niobe en 1958, abattu par l'armée française.
Au
Cameroun. Il y a eu la mort suspecte du centrafricain Barthélémy Boganda en 59, et aussi l'indépendantiste camerounais Félix Roland Mounier, empoisonné à Genève en 1960. Donc, on peut penser qu'il fait une allusion à cela.
À la France-Afrique.
À la France-Afrique,
c'est ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, ces années 60, c'est une remise en question de la position dominante de l'Occident, de sa position dominante en tant que civilisation dominante, pour avancer vers l'idée d'un monde riche, des cultures des cinq continents. Ce qui est exprimé avec lyrisme, vous allez l'entendre, par le ministre de la Culture français, André Malraux. Et nous sommes, je le rappelle, en pleine décolonisation et en pleine guerre froide.
Aujourd'hui, 8 mars 1960, pour la première fois, toutes les nations, au temps même où beaucoup d'entre elles poursuivent une guerre secrète ou proclamée, sont appelées à sauver ensemble les œuvres d'une civilisation qui n'appartient à aucune d'elles. Si l'UNESCO tente de sauver les monuments de Nubie, c'est qu'ils sont immédiatement menacés. Mais il va de soi qu'elle tenterait de sauver de même d'autres grands vestiges, Angkor ou Nara par exemple, s'ils étaient menacés de même. Pour le patrimoine artistique des hommes, vous faites appel à la conscience universelle comme d'autres le font cette semaine pour les victimes de la catastrophe d'Agadir. Pour la première fois, vous proposez de mettre au service des effigies pour les sauver les immenses moyens que l'on avait mis jusqu'ici qu'au service des vivants. Peut-être parce que la survie des effigies est devenue pour nous une forme de la vie. Au moment où notre civilisation devine dans l'art une mystérieuse transcendance et l'un des moyens encore obscurs de son unité, au moment où elle rassemble les œuvres devenues fraternelles de tant de civilisations qui se haïrent ou s'ignorèrent, vous proposez l'action qui fait appel à tous les hommes contre tous les grands naufrages. Il n'est qu'un acte sur lequel ne prévalent ni l'indifférence des constellations, ni le murmure éternel des fleuves. C'est l'acte par lequel l'homme arrache quelque chose à la mort.
André Malraux, auteur de La condition humaine, prix Goncourt 1933, ici à la tribune de l'UNESCO en 1960, en tant que ministre français de la Culture. Malraux célèbre le sauvetage des monuments égyptiens de Nubie, ce qui est une entreprise inédite et imprévue, c'est ce qu'on apprend en vous lisant, Chloé Morel.
C'est ça, parce
qu'est-ce qui s'est passé ?
En fait, en 1955, quand le dirigeant égyptien Nasser a commencé la construction du barrage d'Assouan, ça a entraîné l'apparition du lac, un grand lac de retenue, le lac Nasser, qui allait engloutir les temples d'Abou Simbel, les fameux temples extrêmement anciens et majestueux. Et l'UNESCO, au début, a entrepris de sauvegarder la mémoire de tous ces temples. Il y en a d'autres aussi dans la région qui allaient être engloutis. Et en faisant des relevés architecturaux. Puis, peu à peu, a germé l'idée de sauver ces temples en les déplaçant. Et donc, en 1960, l'UNESCO lance un appel international pour sauver les monuments de Nubie. Et cet appel aura beaucoup de succès. Et cela a abouti en 1968 à l'inauguration des temples déplacés, découpés au fil hélicoïdal et déplacés par des grues à un autre emplacement plus haut, mais avec la même inclinaison face au soleil pour faire les mêmes jeux de lumière face au soleil couchant.
Et c'est vraiment le début, au fond, des grandes missions archéologiques internationale, hein, qu'on va retrouver ensuite à Luxor en Égypte, à Angkor au Cambodge, ou même autour du Taj Mahal en Inde.
This is UNESCO Radio in Paris. Our guest today in the studios of UNESCO Radio is Mrs. Indira Gandhi.
Vous écoutez Radio UNESCO à Paris. Notre invitée du jour est Madame Indira Gandhi, qui est la déléguée indienne du bureau exécutif de l'UNESCO. Madame Gandhi, merci de votre présence en nos studios. Pourriez-vous nous expliquer quelles seront les grandes lignes de votre intervention?
Well, the main point, of course, has been the Aid to Africa program.
Disons que le point central est le programme de soutien à l'Afrique.
But just as important and something that concerns India.
Mais ce qui est important et qui concerne également l'Inde en tant que pays dit en voie de développement, c'est un véritable programme éducatif et la nouvelle perspective qui lui est donnée. Nous savons tous combien l'éducation est importante. Mais avons-nous compris le rôle de l'éducation dans le développement économique et social de notre pays? Alors que c'est primordial pour nous, pour notre plan quinquennal, parce que nous essayons de construire l'industrie et l'économie de notre pays dans le cadre de notre révolution sociale. Et nous réalisons combien l'éducation ne saurait être traitée comme un sujet à part, mais plutôt comme un sujet à part entière du plan économique.
À l'avant-garde du développement par l'éducation, la première ministre indienne Indira Gandhi lance son appel dès 1961 à la tribune de l'UNESCO, où elle sera entendue 4 ans plus tard. Lors du congrès mondial sur l'alphabétisation, le directeur général de l'UNESCO, René Maheu, affirme le rôle majeur de l'éducation pour l'avenir des pays sous-développés.
L'alphabétisation est intégrée au développement. Dans ces projets pilotes, l'alphabétisation ne sera pas considérée comme une opération à part, ayant sa fin en elle-même, mais sera considérée pour les besoins de la cause, en liaison et en fonction étroite et intime avec le développement. Sur ma proposition, la Conférence générale de l'UNESCO a eu, je dois dire, le courage, pour une plus grande justice future, de se déterminer pour ce qui, dans l'immédiat, il faut bien le dire, une certaine injustice. Mais nous pensons qu'il faut d'abord, comme l'a très bien souligné Monsieur le représentant du Royaume-Uni ce matin, il faut d'abord augmenter le potentiel économique du pays pour justement permettre cette scolarisation plus grande et cette extension de l'alphabétisation que nous souhaitons. Nous allons donc donner le primat aux travailleurs, comme le disait tout à l'heure Monsieur le délégué de la Tunisie sur les non-travailleurs, pour qu'il y ait demain plus de travailleurs. Nous voulons briser le cercle infernal du sous-développement.
Nous voulons briser le cercle infernal du sous-développement. C'est la voix de René Maheu, directeur général de l'UNESCO de 1961 à 1974. Comment ça s'est traduit concrètement? Parce que c'est une proposition extrêmement généreuse, Chloé Morel, vous qui connaissez très très bien la longue histoire de l'UNESCO. Il y a eu beaucoup de réussites, mais il y a eu aussi beaucoup d'échecs.
Donc la période de René Maheu, 62-74, ouais, c'est un peu l'âge d'or de l'UNESCO. L'UNESCO est très médiatisée et fait beaucoup de choses grâce à l'aide du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, créé en 1965, qui lui apporte beaucoup de crédits, de même que la Banque mondiale, pour faire des projets d'aide au développement.
Il y a de l'argent à ce moment-là.
Il y a de l'argent, voilà. Il y a beaucoup plus de crédits, contrairement à aujourd'hui, où l'UNESCO, au contraire, a très peu de moyens financiers. Donc l'UNESCO lance en 1965 un nouveau projet, le Programme expérimental mondial pour l'alphabétisation, suite à la conférence mondiale d'alphabétisation à Téhéran. C'est l'idée que l'alphabétisation doit être faite en rapport avec l'objectif du développement, c'est-à-dire on va alphabétiser des travailleurs dans une usine pour qu'ils soient plus efficaces au travail. Il faut que ça ait un impact direct sur le développement.
Quels sont les pays où on a pu réellement mettre en œuvre cette approche proposée par l'UNESCO?
Il y a 11 pays qui ont été sélectionnés, comme l'Éthiopie, le Mali et surtout l'Iran, parce que l'Iran, du Shah d'Iran, à l'époque, avec la princesse aussi Ashraf Pahlavi, voulait beaucoup coopérer avec l'UNESCO. Donc c'était beaucoup investi dans ce projet, mais ça a été un échec et il a été abandonné quelques années plus tard parce que les retombées prévues sur le développement étaient minimes et finalement la Banque mondiale a décidé d'arrêter de financer le projet.
Et vous expliquez comment cet échec, c'était une vision trop idéologique justement.
En fait, ça a été critiqué par beaucoup de pays parce que c'était trop matérialiste, c'est-à-dire on ne cherchait plus à éduquer la personne pour son épanouissement personnel, mais pour être plus efficace au travail. Donc ça a été beaucoup critiqué et du coup il y a eu un changement de paradigme et ça a été abandonné.
Et 10 ans tout juste après les indépendances ouest-africaines, on retrouve René Maheu, il inaugure cette fois le bureau régional de l'UNESCO dans la capitale sénégalaise.
En inaugurant le bureau régional d'éducation de l'UNESCO en Afrique, je tiens tout d'abord à adresser l'expression de ma profonde gratitude à M. Léopold Sédar Senghor, président de la République du Sénégal, et à son gouvernement pour la générosité avec laquelle ils ont bien voulu accueillir ce nouvel organisme à Dakar, ville hospitalière, où se sont déjà tenues plus de 20 réunions de l'organisation. Mais il est une autre motivation plus profonde. Il s'agit du respect de l'originalité des cultures et du dessein, de la volonté réfléchie de fonder l'éducation d'abord sur leurs spécificités concrètes. L'universalisme de l'UNESCO est en effet tout le contraire de la recherche et de la prédication d'une civilisation planétaire uniforme. Et c'est pour cela que la promotion de l'universel humain, qui est la raison d'être de l'UNESCO, doit s'insérer, s'enraciner, comme vous le dites si heureusement, Monsieur le Président, dans la diversité socioculturelle des communautés historiques et jusque dans l'originalité absolue des personnes.
Nous sommes en 1970 et René Maheu fait son discours à Dakar devant le président Senghor, auquel il rend hommage. Senghor, père de la négritude dans les années 30, Senghor, père du métissage dans les années 60, qui lui aussi a tendu la main aux autres cultures.
Nous sommes aux frontières des Blancs et des Noirs, des Arabo-Berbères et des Nègres africains. Et j'ai découvert que la civilisation, c'est le métissage biologique et surtout le métissage culturel. Alors je me suis accepté tel que j'étais, n'est-ce pas, un serreur métissé de peul de malinqué avec un nom et une goutte de sang portugais. Et j'ai découvert les Sénégalais tels qu'ils étaient et les Soudano-Sahéliens tels qu'ils étaient. Et alors j'ai changé. Oui, j'ai changé. Et désormais, l'idéal devrait consister à s'enraciner dans les valeurs de la négritude, car il faut être enraciné quelque part, mais à s'ouvrir aux valeurs des autres civilisations et continents. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si vous voulez, nous sommes enracinés dans les valeurs de la négritude depuis l'indépendance. Nous avons créé une nouvelle peinture, une nouvelle sculpture, une tapisserie. Nous sommes en train de créer une nouvelle danse, une nouvelle architecture, une nouvelle philosophie. Donc, de la négritude ghetto, nous sommes arrivés, si vous voulez, à la négritude symbiose culturelle, avec toujours l'enracinement nègre.
Et dans la marche du monde, nous sommes à l'écoute des grands discours de l'UNESCO depuis 1945, grâce à notre invité Chloé Morel, auteur d'un livre qui, pour la première fois, rassemble les paroles les plus importantes prononcées à la tribune de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Après avoir évoqué la fondation de l'UNESCO pour la paix et l'éducation dans l'immédiate après-guerre, après avoir entendu les délégués des pays du Sud lancer des appels pour la reconnaissance de leur culture, je vous propose maintenant d'évoquer ensemble les années 70, les années post-68, où la jeunesse dans le monde entier a donné de la voix. Ces années 70 où tout devient politique, avec les maoïstes, les tiers-mondistes, tous ces istes. Et l'UNESCO n'échappe pas à cette règle, Chloé Morel. Oui. Quels sont les enjeux à ce moment-là ?
Eh bien, à partir de 1974, l'UNESCO est dirigée pour la première fois par un Africain, le Sénégalais Amadou Matarembo. C'est une révolution, c'est la première fois à l'UNESCO. Et il est très vite accusé de politisation par les États-Unis, qui lui reprochent d'être clientéliste, de privilégier les Africains et les enjeux africains. D'autant plus qu'en 1978, il lance un appel retentissant pour la restitution des objets d'art et d'archéologie africains détenus dans les musées occidentaux. Donc cela va amener au retrait des États-Unis de l'UNESCO en 1984, ce qui la prive de beaucoup de ses moyens financiers.
Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Autant il y a eu cette espèce d'âge d'or dans les années 65, 70, 75, autant là, avec le retrait des États-Unis, l'UNESCO va commencer à connaître de sérieux problèmes financiers. Mais par ailleurs, l'UNESCO a affirmé dès ses plus jeunes années son engagement pour l'égalité des peuples à travers un programme intitulé « La question des races » qui résonne absolument avec notre actualité. De quoi s'agit-il au fond, Chloé Moret, cette histoire de programme sur la question des races ?
Alors le programme sur la question des races, c'est à la fois des études ethnologiques assez fouillées, comme en Martinique où Michel Léris, l'ethnologue français Michel Léris, est envoyé, ou de nombreuses études en Amérique latine, au Brésil notamment, mais aussi ce sont des déclarations sur la race, plusieurs déclarations successives qui veulent démontrer scientifiquement par un comité de scientifiques de différentes disciplines que le racisme n'est pas fondé, que les préjugés racistes n'ont aucun fondement scientifique. Donc c'est l'idée de vaincre le racisme.
Que tous les hommes et femmes sont les mêmes au fond.
Oui, c'est ça. Et aussi, il y a un troisième volet, c'est de diffuser cette idée dans le grand public par des conférences, des magazines, des brochures avec des illustrations, etc. Donc il y a beaucoup de scientifiques qui sont mis à contribution, comme en France, Claude Lévi-Strauss, par exemple, qui écrit dans la série de toutes les brochures publiées par l'UNESCO, le petit livre « Race et histoire » en 1952, qui aura un grand succès.
Et il va donner une conférence, Claude Lévi-Strauss, intitulée « Race et culture ». Donc c'est un éminent chercheur en anthropologie. Et il s'exprime en 71 à la tribune de l'UNESCO. L'écoute ensemble et vous allez ensuite nous expliquer pourquoi ce discours a tellement suscité de polémiques.
L'ethnologie se sent-elle capable, à elle seule, d'expliquer la diversité des cultures? Peut-elle y parvenir sans faire appel à des facteurs qui échappent à sa propre rationalité, sans d'ailleurs préjuger de leur nature dernière qu'il ne lui appartient pas de décréter biologique? Tout ce que nous pourrions dire, en effet, sur le problème des rapports éventuels entre la culture et cette autre chose qui ne serait pas du même ordre qu'elle, serait, en démarquant une formule célèbre, que nous n'avons pas besoin d'une telle hypothèse. Il se pourrait cependant que, même ainsi, nous nous fassions la part trop belle en simplifiant à l'excès. Rien n'empêche que des cultures différentes coexistent et que prévalent entre elles des rapports relativement paisibles dont l'expérience historique prouve qu'ils peuvent avoir des fondements différents. Tantôt, chaque culture s'affirme comme la seule véritable et digne d'être vécue. Elle ignore les autres, les nie même en tant que culture. La plupart des peuples que nous appelons primitifs se désignent eux-mêmes d'un nom qui signifie les vrais, les bons, les excellents, ou bien tout simplement les hommes. Et ils appliquent aux autres des qualificatifs qui leur dénient la condition humaine, ainsi singe de terre ou œuf de poux. Sans doute, d'une culture à l'autre, pouvait aussi régner l'hostilité et parfois la guerre. Mais il s'agissait surtout de venger des torts, de capturer des victimes destinées au sacrifice, de voler des femmes ou des biens, coutumes que notre morale réprouve, mais qui ne vont jamais ou qui ne vont qu'exceptionnellement jusqu'à la destruction d'une culture en tant que telle ou jusqu'à son asservissement. Quand le grand ethnologue allemand Kurt Unkel, mieux connu sous le nom de Nimuendaju que lui avaient conféré les Indiens du Brésil auxquels il a consacré sa vie, quand il revenait dans les villages indigènes après un long séjour dans un centre civilisé, ses hôtes fondaient en larmes à la pensée des souffrances qu'il avait dû encourir loin du seul endroit où, pensait-il, la vie valait la peine d'être vécue. Cette profonde indifférence aux cultures autres était à sa manière une garantie pour elles de pouvoir exister à leur guise et de leur côté.
La voix de Claude Lévi-Strauss dans La Marche du Monde, le grand anthropologue et l'auteur du livre « Race et histoire » sous l'égide de l'UNESCO. Et son discours n'est pas, pour le coup, dans la ligne de l'organisation à l'époque, puisqu'il pose la question de l'intérêt de certains peuples autochtones pour les autres cultures. Alors pourquoi ça dérange autant en 71, Chloé Morel ?
Parce qu'en fait, il affirme qu'une culture a le droit d'être indifférente aux autres cultures, de se fermer aux autres cultures, et au contraire, l'UNESCO, à cette époque-là, prône le dialogue des cultures, la diversité en dialogue. C'est le mot d'ordre de l'UNESCO, et qui va aboutir d'ailleurs en 2005 à la Convention sur la diversité culturelle. Donc en 1971, ce discours a un peu désarçonné les autres orateurs et l'UNESCO elle-même, et il a été du coup pas très bien reçu. Il ne s'intégrait pas bien à la pensée de l'UNESCO de l'époque.
Mais ce qui montre aussi toute l'indépendance d'esprit de Claude Lévi-Strauss, qui par ailleurs participe à ce programme sur la question des races et qui justement se bat pour déracialiser l'Occident, pour qu'on puisse reconnaître que le racisme est une construction et qu'il n'existe pas, qu'il n'y a qu'une hiérarchie entre les races. Et en même temps, c'est l'ethnologue qui parle, puisque sur le terrain, il constate combien ce sont de très belles idées, mais qu'au fond, même du côté des peuples autochtones, il peut y avoir un repli sur soi, j'allais dire, qui est très humain.
Oui, et dans les critiques, peut-être son discours a été un peu caricaturé.
Ouais.
Alors qu'en réalité, quand on écoute bien tout son raisonnement, on le comprend ce qu'il veut dire.
Absolument. Le débat, la polémique existe donc, ça nous rassure, à l'UNESCO, et redessine les contours d'une institution qui n'est pas en dehors de la réalité du monde, bien au contraire. Un monde dans lequel le spectre de la Seconde Guerre mondiale, l'extermination des Juifs d'Europe ou encore l'utilisation de la bombe nucléaire se conjugue à l'enfer de la guerre du Vietnam dans les années 70, pour rappeler le contexte. C'est alors, vous l'avez signalé tout à l'heure, et c'est une révolution, que le premier directeur africain de l'UNESCO, le vénérable Amadou Matarambo, prononce un discours en faveur du désarmement. Nous sommes en 1978.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est pour le directeur général de l'UNESCO un honneur que de prendre la parole à cette session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies consacrée au désarmement. Depuis 1945, combien de jours les armes se sont-elles réellement tues dans le monde entier? Que l'axe des conflits, qui continue néanmoins d'impliquer les puissances industrielles, grandes ou petites, se soit déplacé vers les pays pauvres, ne change rien au fait que des hommes, des femmes, des enfants, dont la vie est aussi précieuse que n'importe quelle autre vie, continuent à mourir de la guerre. Mais les nations qui ont sacrifié, en ce seul XXe siècle, plus de 100 millions de victimes à la guerre et qui continuent, comme happées par un engrenage vertigineux, de dévoyer une part énorme de leur génie, de leur énergie et de leurs ressources en l'affectant prioritairement à la fabrication d'engins de mort toujours plus perfectionnés et redoutables, que ces nations puissent se retrouver ici pour chercher en commun, dans la concertation, les voies d'un désarmement général et complet, voilà qui me semble résumer de la manière la plus saisissante et la sagesse et la folie de notre époque qui permet tous les espoirs, comme elle justifie hélas les plus grandes inquiétudes. Au moment où les peuples de la terre, transcendant la peur de leurs différences, commencent d'accéder à l'intuition de la solidarité fondamentale de l'espèce humaine, c'est un tournant décisif de son histoire qu'aborde la communauté des nations. Pour les États membres de l'UNESCO, pour vous-même, mesdames, messieurs les représentants de ces États, pour nous tous, la question du désarmement s'impose en effet comme un défi collectif, inéluctable et total.
La voix de Amadou Matarambo, premier directeur africain de l'UNESCO de 1974 à 1987, dont nous fêtons le centenaire en sa présence à Dakar ce week-end. Permettez-moi, monsieur, de vous souhaiter un très heureux anniversaire. Alors, vous écrivez dans votre livre, Chloé Morel, que c'est grâce à l'action de Amadou Matarambo que l'UNESCO atteindra une dimension véritablement mondiale. Pourquoi vous écrivez ça ?
parce que, en fait, on le voit avec son discours sur le désarmement, la paix, c'est le fondement de l'action de l'UNESCO, comme on le voit dans son acte constitutif qui dit « Les guerres naissant dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix. » Et Mbo a essayé, par tous les aspects de l'action de l'UNESCO, la culture, l'éducation, la science, la communication, le patrimoine, de contribuer à la paix dans les esprits. Et aussi, il a développé des actions sur tous les continents, alors qu'au début de son action, dans les premières années, l'UNESCO était essentiellement occidentale ou européenne.
Et là, on voit vraiment que de 1960, de l'entrée de ces 17 nouvelles nations africaines à l'UNESCO, assez rapidement, finalement en 20 ans, il y a cet élargissement.
Voilà, cet élargissement. Avec
de l'action de l'UNESCO et aussi à travers cette représentation de ce premier directeur africain. Et puis, vous l'avez cité tout à l'heure, alors Amadou Matarembo, qui jette un gros pavé dans la mare, puisqu'il a été le premier à lancer cet appel pour la restitution des objets africains dans les musées occidentaux. Un discours qu'il a prononcé en 1978, c'est d'une actualité vertigineuse, Chloé Morel, puisque on commence tout juste, en tout cas ce qui concerne la France, à mettre en œuvre ces restitutions. Il est incroyablement précurseur.
Oui, il est précurseur puisque dès 1978, il fait cette réclamation qui a fait scandale à l'époque. Mais on a vu que dans les années 2000 et aujourd'hui, actuellement, la France commence à restituer au Bénin ou à d'autres pays des objets d'art ou d'archéologie. Et Amadou Matarembo a aussi commencé à jeter les bases d'un projet qui va vraiment naître dans les années 90. Le projet La Route de l'Esclave sur la mémoire de l'esclavage, qui a aussi été précurseur pour l'action mémoriale sur l'esclavage au niveau mondial.
Et là, pour le coup, c'est un franc succès, puisqu'il y a différents musées dans le monde aujourd'hui et que ces routes de l'esclavage se multiplient, sans compter le retour des Afro-Américains en Afrique sur les traces justement de leurs ancêtres. Les voix de l'UNESCO sont nombreuses dans le livre de Chloé Morel, mais vous pouvez également écouter d'autres grandes voix, chers auditeurs, en allant sur Internet, sur la page de la Marche du Monde. Vous trouverez le lien vers le site de l'UNESCO. Et avant de se quitter, un dernier grand extrait d'une des plus grandes figures historiques du XXe siècle. Il incarne à lui tout seul les valeurs de paix et d'humanisme, si chères à l'UNESCO et à Chloé Morel, notre invitée. Et c'est à l'UNESCO qu'il donne l'un de ses premiers grands discours à sa sortie de prison après 27 années de détention pour appeler à la réconciliation de l'Afrique du Sud. On écoute les mots de Nelson Mandela sur RFI.
Firstly, permit me to express my profound and heartfelt appreciation of this honor that the jury of the Félix Houphouët-Boigny Foundation for Peace Research has deemed fit to bestow on me.
Je tiens à dire combien je suis profondément et sincèrement touché d'être ainsi honoré par le jury du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix.
I accepted this esteemed prize.
Si j'accepte ce prix prestigieux, c'est en toute humilité et en sachant parfaitement que ce n'est pas à l'individu Nelson Mandela qu'il rend hommage, mais bien au combat pour la liberté et la démocratie en Afrique du Sud, auquel ma vie a été si étroitement associée. Il est un signe de bon augure pour mon pays que ce prix soit partagé cette année par deux personnes que leurs idéaux politiques situent aux deux extrémités de notre éventail politique national. Tous les Sud-Africains espèrent que cette distinction partagée symbolise la convergence de nos objectifs et le renforcement du consensus qui est en train de rassembler l'immense majorité d'entre nous sur l'orientation future de notre pays.
That developing national mood finds expression in the convention.
Ce sentiment national, de plus en plus affirmé, trouve son expression dans la Convention pour une Afrique du Sud démocratique, qui nous assigne comme tâche impérieuse et collective de commencer à mettre sur pied une démocratie non raciale.
South Africa is distinguished.
L'originalité de l'Afrique du Sud est d'avoir hérité de l'histoire deux traditions nationalistes divergentes. Ces deux nationalismes, l'Africain
and Africana nationalism
et l'Africaner
embody fundamentally different perspectives
incarnent des conceptions radicalement différentes de la nature et de l'avenir de notre pays.
Because both nationalisms lay claim to the same piece of earth.
Parce que ces deux nationalismes revendiquent la même terre,
our common home, South Africa.
Notre maison commune, l'Afrique du Sud, la lutte entre eux devait être à la fois enflammée et brutale.
We are confident that the progress we are making in the CODESA talks.
Puissent les progrès réalisés dans le cadre des pourparlers sur la Convention pour une Afrique du Sud démocratique mettre fin, tout du moins, aux manifestations les plus violentes de cet affrontement. L'attachement à la démocratie commun à tous les participants de la Convention pour cette Afrique du Sud démocratique prouve que l'écart qui séparait les Noirs et les Blancs de notre pays s'est considérablement réduit. Si nous laissons passer cette occasion d'atteindre le moins douloureusement possible l'objectif d'un pays libre, en paix avec lui-même et avec ses voisins, la postérité ne nous le pardonnera pas.
Posterity will not forgive us.
Nous sommes à Paris, nous sommes le 3 février 1992. Nelson Mandela parle, et c'est magistral, Chloé Morel.
Oui, je trouve ce discours très émouvant, vraiment extraordinaire, parce qu'il est humaniste et il parle de la démocratie, de la paix à venir dans son pays qu'il faut construire. Et c'est seulement 2 ans après sa libération. Il n'a pas encore le prix Nobel de la paix qu'il aura l'année d'après. Il n'est pas encore président et il reçoit le prix Houphouët-Boigny de l'UNESCO avec Frédéric de Clercq.
Et déjà, il exprime cette conscience, cette responsabilité qu'il a, qu'il ne faut pas que son pays bascule dans l'extrême violence. Et c'est vrai qu'il saura éviter la guerre civile.
Oui, c'est ça. Il est pondéré. Il reconnaît les deux cultures, comme il le dit, africanaire et africaine. Et il parle du fait qu'il faut construire cette paix, cette cohabitation et la démocratie surtout, qui lui tient à cœur.
Vous auriez aimé être dans la salle ce jour-là?
Oui, beaucoup. Oui.
Merci, Chloé Morel.
Merci.
Je rappelle votre livre, Les grands discours à l'UNESCO, aux éditions Le Croquant. Et je vous signale, chers auditeurs et notamment chers étudiants, la version longue, numérique et gratuite est disponible sur le site de la page de la Marche du Monde sur RFI. Ainsi s'achève ce nouvel épisode de La Marche du Monde consacré aux grandes voix de l'UNESCO, signé Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Jeannin. Grâce au formidable travail de valorisation entrepris par Adama Pam, directeur en chef des archives de l'UNESCO et toute son équipe. N'hésitez pas à vous exprimer sur nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre podcast. Cette émission, c'est la vôtre. We want a revolution. Young people revolution. Intelligent revolution must be African education. We want a revolution, young people revolution. Intelligent revolution must be black people education. Go to school, brother, and learn what they are doing. Go to school, my brother. I said, go to school. You will understand very soon all the problems of your nation. We want a revolution, young people revolution, intelligent revolution. Must be black people education. Why are we gonna get on you? Religion du monde.